Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grand à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce n'est que le mois prochain que le projet de loi sur l'asile et l'immigration sera présenté en Conseil des ministres. Ce n'est qu'au printemps qu'il devrait être débattu au Parlement. Mais déjà, le texte suscite la controverse. Beaucoup trop dur, estime la gauche, bien trop laxiste, entend-on à droite, jusqu'à certains députés de la majorité, d'ordinaire plutôt dociles, qui émettent des réserves sur son contenu. Il est vrai qu'on en connaît déjà certaines dispositions. Augmentation de la période maximale de rétention administrative de 45 à 90 jours, réduction des délais pour toute demande d'asile de 120 à 90 jours, des mesures qui vont dans le sens d'un durcissement, même si le gouvernement entend également raccourcir la durée d'instruction des dossiers, 14 mois en moyenne actuellement. L'objectif est clairement affiché, il s'agit de mieux maîtriser les flux migratoires, pour reprendre la formule du document d'orientation présenté en juillet dernier, ce qui laisse entendre que la France accueillerait aujourd'hui sur son sol des étrangers dont elle ne souhaite pas la présence. Alors immigration, quelle politique de sélection ? C'est le débat que nous allons avoir ce soir en compagnie de trois parlementaires, une sénatrice, un député et un parlementaire européen. La sénatrice, c'est vous, Éliane Assassi, bonsoir.
Bonsoir.
Sénatrice de Seine-Saint-Denis, vous êtes membre du Parti communiste. Vous avez été membre du conseil d'administration de l'OFPRA. Pour discuter avec vous, Aurélien Taché, bonsoir.
Bonsoir.
Député du Val-d'Oise, vous êtes membre de La République En Marche. Vous avez été chargé, il y a quelques semaines de cela, d'une mission parlementaire sur l'intégration avec un rapport qui sera remis, vous savez quand ?
Dans une bonne quinzaine de jours.
Troisième invité, Florian Philippot, bonsoir.
Bonsoir.
Député européen, conseiller régional Grand Est, vous présidez le parti Les Patriotes, après avoir été pendant plusieurs années, vice-président du Front National. Alors avec vous, je voudrais d'abord poser une question qui va peut-être vous paraître un peu large, mais elle me semble assez essentielle pour qu'on puisse justement poser les termes du débat. Est-ce que vous considérez les uns et les autres que la France a les moyens d'accueillir aujourd'hui toutes celles et ceux qui en font la demande, ou bien est-ce qu'il est nécessaire d'opérer une sélection ? Éliane Assassi.
Écoutez, on cite souvent la fameuse phrase de Michel Rocard selon laquelle la France ne peut accueillir toute la misère du monde.
Mais elle doit en prendre sa part.
Elle doit en prendre sa part. Cette phrase a bientôt 40 ans. Et il me semble que depuis, les choses ont changé. Dans le monde, il y a une mondialisation financière qui s'est installée, dans certains pays, spolié les pays et les habitants de ces pays. On a des conflits qui se multiplient, on a la faim, on a la misère, on a le réchauffement climatique. Enfin bon, bref, nous ne sommes plus du tout dans la même situation qu'il y a bientôt 40 ans. Donc je ne fais pas mienne cette phrase de Michel Rocard. Et moi, je persiste à dire que si nous ne regardons pas les choses de façon pragmatique, honnête, courageuse et humaine, nous allons au-devant de graves problèmes.
Donc j'en déduis qu'à la question « Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui d'accueillir ceux qui en font la demande ?» La réponse, elle est positive. Florian Philippot.
Mais vous citiez la phrase de Michel Rocard, vous rappeliez à quel point elle a peut-être pas encore 40 ans, mais au moins 30 ans. Et
89, bientôt 40.
Voilà, et oui, enfin bientôt 30, on va pas se vieillir de 10 ans, mais il se trouve que depuis la situation s'est aggravée en réalité. Et donc peut-être que cette phrase qui à l'époque déjà résonne encore plus aujourd'hui. Moi j'aimerais qu'on se pose la question de savoir d'abord, on se pose toujours la question du point de vue français. On se dit, est-ce que la France peut, etc. Mais est-ce qu'on doit, j'y vois presque un biais un peu colonialiste, hein. Est-ce qu'on doit considérer que l'immigration massive, parce que ces gens-là, ils arrivent en France, mais ils viennent bien de quelque part. Ils viennent beaucoup de pays africains, ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent surtout de quelques régions aujourd'hui dans le monde. Est-ce que c'est une bonne chose pour ces pays ? Moi, je voudrais citer l'exemple du Maroc.
Sauf que
récemment, les autorités ont signalé.
Vous ne répondez pas vraiment à mes questions. Non, c'est-à-dire, est-ce que la France a la capacité d'accueillir ceux qui en font la demande ?
Je crois que du côté français, c'est absolument évident. Bien sûr que non. Nous n'avons plus les moyens d'accueillir une immigration pareille, qui d'ailleurs, on parle d'immigration, il faut voir les chiffres. Elle a augmenté à peu près En 2011-2012, on en était à 193 000 titres de séjour, je parle de l'immigration légale, hein, par an. Aujourd'hui, là, en 2016, c'était 228 000. Donc vous voyez, rien qu'en 5 ans, ça a été 40 000 de plus chaque année. Donc c'est absolument impossible pour des raisons économiques, pour des raisons sociales et pour des raisons, quand on voit le niveau de chômage, et pour des raisons d'intégration qui se fait très difficilement et ce qui peut créer, pas dans tous les cas heureusement, mais ça, souvent, ce qui peut créer des phénomènes de ghettoisation heureux pour personne. Mais pour les pays d'origine, je veux dire, le Maroc, les autorités récemment ont dit « Mais attendez, nous, vous nous prenez tous nos jeunes formés. » La Gambie, il y a des régions entières de ce pays africain où il n'y a plus un jeune. Il n'y a plus un jeune pour développer l'agriculture, pour développer l'économie. Donc je veux dire, travaillons en France à retrouver des frontières nationales, enfin, on développera le débat tout à l'heure, à faire en sorte qu'on maîtrise enfin vraiment ces flux migratoires, mais travaillons aussi là-bas, parce que je pense que ça n'est pas un projet humaniste et de compassion pour les pays d'origine, je pense que c'est un projet qui les détruit.
Je reste toujours sur ma première question, Aurélien Taché.
Il faudrait effectivement d'abord objectiver un petit peu de quoi on parle. En France aujourd'hui, vous avez fait un peu plus de 220 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. Donc c'est ce que vient de dire Florian Philippot.
Il y a une 227 923 chiffres officiels pour 2016.
Voilà. Donc on voit bien que d'abord parler de phénomène massif, ce serait vraiment se parer de mots, parce que quand on sur la simple migration liée à l'asile et aux réfugiés, on voit que des pays comme l'Allemagne peuvent faire 1 million, qu'un pays comme la Suède peut faire plusieurs centaines de milliers par an. Vraiment, essayons de rester raisonnable. À quoi est liée cette augmentation qui est donc, je crois que le chiffre que vous avez donné, M. Philippot, est de 191 000 titres, donc on est à 227, donc on voit bien 30 à 40 000 personnes. Elle est liée à justement ce qu'on pourrait appeler cette migration extraordinaire. Je m'explique. Moi, je fais une distinction entre la migration que je qualifierais d'ordinaire, des gens qui viennent pour faire leurs études, c'est plusieurs dizaines de milliers de titres chaque année, et qui donc repartent ensuite. Hein, on vient étudier et puis on repart, ou alors on trouve un emploi, on s'intègre, enfin bon bref, c'est une migration ordinaire. Une migration familiale, qui là aussi est liée au simple droit de vivre en famille, comme le reconnaît la Convention européenne des droits de l'homme, et on a plusieurs dizaines de milliers de titres chaque année qui sont délivrés en raison de cette migration familiale. Et puis enfin, une migration professionnelle, c'est extrêmement faible, c'est 15 000 personnes par an. Et donc l'augmentation, elle vient de quoi? Elle vient de la demande d'asile. Elle vient de la demande d'asile, on était à 10 ou 20 000 réfugiés il y a 4 ou 5 ans, 10 ou 20 000 réfugiés par an. Aujourd'hui, on a 40 000 ou 50 000. Au regard de tous les bouleversements qu'a pu connaître le Moyen-Orient depuis, au regard de la crise syrienne, au regard de ce qui se passe dans l'Est de l'Afrique, est-ce qu'on peut vraiment parler d'immigration massive? Non, absolument pas.
En tout cas, il y a une augmentation. Est-ce que cette augmentation, la France peut l'absorber? Est-ce qu'elle en a la capacité économique, ou bien est-ce qu'on est avant tout dans une capacité politique? On a l'impression que finalement c'est surtout ça qui pose problème aujourd'hui.
J'y viens. Cette migration ordinaire, voilà, c'est des chiffres qui ne bougent peu, qu'on peut évidemment absorber. Il n'y a pas de défi particulier qui serait lié à la mise en place d'une politique publique vraiment très, très importante, ou en tout cas qui nécessiterait des moyens particulièrement incroyables. En revanche, il y a donc cette migration extraordinaire, et là, il faut faire la part des choses entre deux choses. Celles qui relèvent de crises qui sont liées au droit d'asile, de crises politiques, de gens qui sont persécutés dans leur pays, de gens qui sont menacés de mort parce qu'il y a des conflits ou parce qu'en raison de ce qu'ils sont, ils sont menacés de mort dans leur pays. Et ça ne se quantifie pas. Ça, c'est un droit. Ça, c'est un droit fondamental. Donc derrière, on se donne les moyens d'intégrer ceux à qui on donne l'asile. C'est une chose, et on pourra en reparler si vous voulez. C'est le travail que j'ai pu conduire dans le cadre de mon rapport. Et il y a ceux, effectivement, qui ne relèvent pas de cette migration ordinaire et qui, dans cette migration extraordinaire, ne relèvent pas du droit d'asile. Et là, effectivement, la France peut dire, raison de la politique migratoire qu'elle souhaite fixer, qu'elle ne peut pas accepter tout le monde et prendre tout le monde. Ça, ce n'est pas choquant.
Est-ce que ça veut dire qu'une première divergence entre vous, ça pourrait être sur le fait qu'il faille avoir ou pas une approche chiffrée de cette question, c'est-à-dire de définir, pourquoi pas chaque année, le nombre d'étrangers qui ont vocation à entrer sur le sol français, ou bien est-ce qu'il faut justement ne pas le faire pour pouvoir gérer cette question, peut-être au cas par cas, Éliane Assassi?
Écoutez, moi, je suis fermement opposée à une politique qui relèverait du quota, puisque c'est un peu de ça dont il s'agirait. Et je ne peux pas entendre ce tri qui est fait entre une migration qui serait donc ordinaire, celles et ceux qui relèveraient de l'asile, et celles et ceux qui seraient des migrants économiques.
C'est une distinction qu'on entend beaucoup pour le coup.
Oui, c'est pour ça que je l'évoque, et moi je n'adhère pas du tout à ce raisonnement. Pourquoi ? Bien évidemment, il y a des crises politiques, des guerres, etc., qui amènent un certain nombre de familles à vouloir quitter leur territoire pour protéger leur vie. Mais je crois qu'on pourrait en dire tout autant aussi des migrants économiques. il y a des gens qui quittent des pays parce qu'effectivement, c'est la crise. Il y a une crise économique très forte dans leur pays et qui cherchent tout simplement le droit à bien vivre. Et donc, bien évidemment, on pourrait faire une distinction. On ne parle pas de la même chose si on parle d'un Syrien que si on parle d'un Somalien. Mais sincèrement, sur le fond, les raisons qui motivent leur exil, parce que c'est de ça dont il s'agit, ce sont quand même des gens qui font le choix de s'exiler, sont sur le fond le même. Ce sont les conséquences de politiques qui ont été menées et qui ont créé des situations conflictuelles, dangereuses, et qui amènent des gens à vouloir effectivement partir de leur pays.
Florian Philippot, est-ce qu'il faut fixer, je reste sur mon approche chiffrée, hein, un solde migratoire annuel lorsque, alors pendant la campagne présidentielle, je sais que vous n'êtes plus au Front National, mais lorsque donc vous interveniez dans le cadre de la campagne de Marine Le Pen, il y avait ce chiffre de 10 000 personnes en solde migratoire annuel au niveau des immigrés qui était avancé par la candidate du FN. Est-ce que c'est toujours votre approche et est-ce que cette approche-là, elle doit se faire en distinguant justement différents types de migrants, ceux qui auraient vocation à venir parce que ce seraient des migrants politiques et ceux qui auraient peut-être moins parce que ce seraient des migrants économiques.
Moi, je pense qu'on peut se fixer un objectif qui sera forcément subjectif et il faut surtout se fixer comme objectif de revenir un peu aux sources. On parle de l'asile, on en parle à raison parce que pour la première fois, c'est un peu symbolique, mais pas que. On a dépassé les 100 000 demandes l'an dernier, en augmentation de 17% sur un an, avec 43 000 statuts de réfugiés qui ont été accordés l'an dernier. Il se trouve que, on parlait tout à l'heure, on disait entre-temps, il y a eu la Syrie, il y a eu les guerres, etc. Oui, enfin, la Syrie n'arrive que sixième, en fait. Les Syriens, dans les demandes d'asile, l'an dernier, n'arrivent que sixième. Le premier pays, c'est l'Albanie. À ce que je sache, il n'y a pas particulièrement de conflit en ce moment qui justifierait qu'on fuit en masse l'Albanie pour venir en France et demander le statut de réfugié. Et on voit ensuite l'Afghanistan, Haïti, le Soudan, la Guinée et enfin la Syrie. Donc moi, je pense qu'il faut simplement...
Ce que disait Eliane Assassi, c'est que les considérations économiques, elles sont tout aussi valables
que les
considérations
politiques. Mais ça, ce n'est pas l'asile. Donc ça prouve, si vous voulez, que normalement, c'est la persécution... C'est la persécution politique. Donc il faut... L'asile, à la base, c'est une belle idée, mais... Il faut en revenir à la base de ce qu'est l'asile.
À l'article de la Convention de Genève sur le statut de réfugié.
Oui, on peut en parler, mais je ne vous ai pas coupé. Le problème, c'est que l'asile est dévoyé complètement. Et donc, on arrive à des chiffres tout à fait hallucinants. Alors, on refuse certains dossiers. Bon, 43 000 acceptés, donc il y en a un peu plus de la moitié qui sont refusés. Mais que fait-on des personnes qui sont refusées? Normalement, aux yeux de la loi et de la République française, elles sont déboutées du droit d'asile. Elles ont vocation à retourner chez elles. Or, on a appris il y a quelques mois par un autre rapport officiel de l'administration que dans plus de 90% des cas, les personnes déboutées n'étaient pas reconduites. Donc en réalité, on voit bien que cet asile dévoyé se transforme en filière d'immigration clandestine supplémentaire. Alors moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut revenir à la philosophie de ce que c'est. Mais je vais ajouter autre chose. Et ça je trouve que ça manque à nos débats. Comment se fait-il qu'on estime qu'un immigré est forcément heureux s'il arrive en France ? Moi, je pense que le bonheur de chacun, chaque femme, chaque homme dans le monde, c'est de pouvoir vivre en paix, sereinement et heureux dans son pays.
Mais chacun est libre de décider.
Ça. Oui, mais alors, je trouvais intéressant de décider
à la place des autres s'ils sont heureux ou pas.
Non, non, c'est pas cela. Moi, je pense qu'on parlait tout à l'heure, au départ, vous aviez raison d'en parler, madame, des oligarchies financières qui avaient pris le pouvoir. Mais souvent, ces oligarchies détruisent les pays africains. Ce soit les grands groupes comme Monsanto, des grands groupes financiers qui détruisent les pays d'origine. Alors essayons de fixer les populations sur place en ayant une politique de co-développement, en ayant une politique d'électrification de l'Afrique comme le propose M. Borloo que j'ai rencontré. Essayons de faire cela parce que de toute façon, si vous allez dans cette logique, on va en accueillir combien ? Plusieurs millions ? Mais ça n'est pas gérable. Et ça n'est pas parce qu'il y a pire, c'est pas parce qu'il y a l'Allemagne, parce qu'il y a la Suède qu'on doit se rassurer.
Ça dépend de comment, de quel point de vue on se passe.
Parce qu'on voit bien que l'Allemagne a été déraisonnable. Mme Merkel, d'ailleurs, a fini par s'en rendre compte. Elle l'a payé électoralement. Et en ce moment, l'Allemagne est en tension gouvernementale, en partie à cause de cela. Ça n'est pas parce qu'il y a pire à côté qu'on doit s'en réjouir. Donc retrouvons des frontières nationales, retrouvons la maîtrise de notre politique d'immigration, ce qui supposera de se libérer de l'Union européenne. Je crois que c'est un grand défi. Vous savez, les Anglais, les Britanniques ont annoncé qu'ils allaient diviser par 3 l'immigration légale. Grâce au Brexit. Moi, je pense qu'un Frexit en France nous permettrait là aussi, comme sur les questions économiques, comme sur les questions écologiques, eh bien, en matière migratoire, de reprendre la main.
Même si aujourd'hui, la France a repris, d'ailleurs, depuis quelques mois, le contrôle de ses frontières. Ça a été encore repoussé jusqu'au mois de mai 2018, je crois.
Aurélien, ça, c'est faux, monsieur. Nous mettons parfois des... Bah, écoutez, moi, en tout cas, je passe régulièrement...
Brièvement, parce qu'on n'en parle pas, Aurélien Taché.
Je suis souvent en Moselle et je passe... Il n'y a pas de frontières, y compris avec l'Allemagne, avec la Belgique.
85 000 étrangers non réalisés. demi à la frontière, ne serait-ce que l'année dernière.
Il y a Schengen, il y a l'Union européenne, il y a la libre circulation. Moi, je ne veux pas fermer le pays. Je voudrais simplement, c'est quand même pas grand-chose demander, simplement qu'on ait des frontières nationales, ce serait déjà pas mal.
Aurélien Taché, vous qui faites partie donc de la majorité, je rappelle, un député pour La République en marche, est-ce que un des aspects, on va dire, de la politique d'immigration aujourd'hui de la France et donc du gouvernement, c'est de commencer par se dire il faut faire en sorte d'éviter qu'il y ait davantage de candidats à l'immigration qui viennent en France, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de venir, soit en les dissuadant par une loi qui pourrait être plus restrictive, soit en augmentant aussi l'aide au développement, comme l'évoquaient Éliane Assassi et Florian Philippot.
Non. Et d'abord, je voudrais rapidement répondre à votre question précédente aussi et commencer par dire que je trouve que M. Philippot a une vision du monde bien triste. Si le seul monde qu'on nous propose, c'est vous êtes né quelque part, vous devez y rester, vous n'avez pas le droit d'en bouger de la même manière qu'il y a quelques siècles, c'est quand même un peu triste.
Comme d'un touriste ou d'un étudiant qui va travailler à Harvard.
Mais je ne parle pas
on
forcément
parle
de ça. Mais
va
vous savez,
dans un
moi, je
ne
sais pas. Je ne sais pas encore où je suis député en France pour le moment. Peut-être que dans quelques années, je souhaiterais aller m'installer ailleurs et j'aimerais bien que les personnes qui raisonnent dans ces pays-là sur les questions migratoires,
on ne raisonne pas comme mondiale vous. Qui voyage
je ne suis pas de l'élite
Merci.
Mondiale, Monsieur Philippot. Je viens d'un milieu très modeste, certainement plus que vous. Donc là-dessus, j'ai pas de leçons à recevoir. Juste sur les volumes et les quotas que vous évoquez, absolument pas, et certainement pas quand il s'agit de l'asile. Je l'ai redit en préalable, l'asile est un droit fondamental, ça ne se quantifie pas. Une grande démocratie sur le droit d'asile, mais par contre, il faut bien le distinguer à un moment. Il faut bien qu'il y ait des critères qui existent. C'est pour ça qu'il existe l'OFPRA. C'est pour ça que bien qu'on ait 100 000 demandes d'asile, on n'est que 43 000 statuts qui ont été accordés. Et si, par exemple, effectivement, l'Albanie est aujourd'hui le premier pays à demander l'asile en France, on a quand même aussi, parce qu'on a des zones d'ombre, je peux partager un des constats que vous faites, c'est on a des zones d'ombre. Est-ce que, comme par exemple en Albanie, quand on a un État qui n'est pas en capacité d'assurer la sécurité de l'ensemble de ses concitoyens, parce qu'on a des systèmes de vendetta qui, parfois, peuvent conduire à des vrais dangers de mort, sinon on aurait 0% d'Albanais acceptés à l'asile, conduisent certains à devoir quitter le pays, à demander l'asile en France ou en Europe. Bon, voilà, ça fait partie des zones d'ombre. Reste que, effectivement, pour 90% des demandes albanaises, elles sont rejetées, puisqu'elles ne sont pas considérées comme étant de l'ordre d'un danger de mort pour ceux qui en font la demande. Et là, on doit avoir une politique d'éloignement qui fonctionne. On n'est plus dans le cadre du droit d'asile. On n'est pas non plus dans le cadre de cette migration ordinaire que j'évoquais tout à l'heure, qui est liée au droit à vivre en famille, au droit à venir faire des études ou autre. Et donc, l'État français peut, dans ce cas-là, et doit même dans ce cas-là, avoir des procédures d'éloignement qui fonctionnent mieux qu'aujourd'hui. Mais en aucun cas, nous souhaitons avoir, et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, une politique qui soit dissuasive. On souhaite avoir une politique qui fonctionne. Aujourd'hui, on a un système d'asile qui est à bout de souffle, qu'il faut vraiment remettre en marche. Et il faut surtout que quand on a eu l'asile ou qu'on ne l'ait pas eu, finalement, ça ne se passe pas exactement la même chose.
Mais
aujourd'hui, c'est le cas.
Que
vous ne vouliez pas rester un an, deux ans, trois ans coincé dans un centre d'hébergement d'urgence sans repartir dans votre pays, sans vous intégrer dans la société française. Et c'est à ça qu'on veut répondre.
Aurélien Taché, quand dans le futur projet de loi, même certes, il reste encore à être présenté en Conseil des ministres, puis débattu par les parlementaires, on verra bien ce qu'il y aura à la fin, mais pour l'instant, parmi les quelques dispositions qu'on connaît, il y a notamment le fait d'une réduction des délais de demande pour l'asile. Ils disposeront, les étrangers, de 90 jours au lieu de 120. Est-ce que ça ne fait pas partie d'une politique de dissuasion à l'égard des futurs demandeurs?
Je pense qu'il y a un certain nombre de
délais. C'est quoi l'intérêt d'avoir ce genre de disposition?
Parce qu'on a une procédure d'asile qui dure 14 mois. On a une procédure d'asile qui dure 14 mois. Est-ce que c'est vraiment acceptable que les gens, pendant 14 mois, soient plongés dans l'incertitude?
Il ne s'agit pas du délai de réponse, là, il s'agit du temps qui est donné aux étrangers pour faire leur demande.
Oui, mais parce qu'on a aussi un certain nombre de personnes qui ne s'engagent pas immédiatement dans la procédure d'asile et ça rallonge considérablement les délais. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent demander l'asile en France, on a aussi des gens dont le projet migratoire n'est pas totalement fixé. On pourrait parler de Calais, bien sûr, mais c'est pas uniquement à Calais que ça se passe. Et donc, on doit pouvoir dire à un moment aux gens, si vous voulez demander l'asile en France, vous êtes évidemment bienvenu pour le faire et vous devez pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Par contre, il faut que vous preniez votre décision. Et donc ça, on a besoin qu'on enclenche les choses plus rapidement parce qu'encore une fois, pour tous ceux qui veulent demander l'asile en France, l'entrée dans la procédure conditionne l'accès à un hébergement, à un accompagnement et des délais plus courts permettront ensuite une intégration qui démarre plus rapidement ou un retour le cas échéant.
La politique d'asile telle qu'elle est menée aujourd'hui et telle qu'elle pourrait l'être suite à cette nouvelle loi sur l'asile et l'immigration, justement, Éliane Assassi, je vous poserai la même question, Florian Philippot, est-ce que vous la jugez-vous, Éliane Assassi, trop restrictive? Est-ce qu'il faudrait accueillir davantage de demandeurs d'asile ou bien est-ce qu'il faut simplement faire confiance à ceux qui sont là pour juger, en particulier l'OFPRA?
Déjà, je dirais qu'il faut respecter la Convention de Genève. Et qui précise que tout demandeur d'asile a droit à une protection dans le pays où il souhaite s'installer ou se sentir plus en sécurité. Ce que je remarque aujourd'hui, on ne l'a pas évoqué encore, c'est le sort des Dublinés. Parce que tout le monde nous parle d'asile, tout le monde nous dit que c'est un droit, l'asile.
Alors, il faudra dire ce que sont les Dublinés.
Ce sont des gens qui rentrent dans un pays, notamment la Grèce, particulièrement la Grèce et l'Italie, et qui déposent leur demande d'asile dans ces pays et qui, la plupart du temps, continuent leur périple à travers, je la fais courte, hein, mais qui continuent leur périple à travers des pays européens, notamment, et la France en particulier. Et on voit bien, on a eu plein d'exemples ces derniers temps de Dublinés, donc de gens qui ont déposé leur demande d'asile en Italie ou en Grèce, qui ont poursuivi leur parcours et qui aujourd'hui, alors qu'ils ont le statut, qu'ils ont déposé une demande, craignent pour leur sécurité, puisque beaucoup refusent de s'installer dans les centres d'accueil, puisqu'il serait prévu, selon la circulaire, également, enfin les deux circulaires, parce qu'il y en a eu une au mois de novembre et il y en a eu une au mois de décembre, que les Dublinés pourraient être aussi renvoyés dans le pays où ils ont fait leur demande d'asile. Donc ils sont déjà en fragilité. Les réfugiés, les demandeurs d'asile sont en fragilité, y compris dans un pays comme le nôtre. Donc j'aimerais aussi qu'on s'arrête sur cet aspect. Et s'agissant des demandeurs d'asile, moi je pense qu'on s'est fait retoquer par la Cour de justice de l'Union européenne. Il n'y a pas si longtemps que ça, qui a déclaré illégale la rétention des demandeurs d'asile sous procédure Dublin. Et la Cour de cassation dans notre pays s'est alignée sur cette mesure. Or, nous ne la respectons même pas. Nous ne respectons même pas cette mesure.
Florian Philippot.
Et moi, je pense que le gouvernement de M. Philippe et Macron a un peu de chance dans sa communication, parce que la machine a enfumé grâce à des cris d'orfraie venus de une partie de la gauche, et grâce à des unes de presse aussi très caricaturales, excessives.
Non, c'est une très bonne une.
Oui, je ne m'étonne pas que vous l'aimiez.
Je pense que je vous invite surtout à lire les articles et à celui de Jean-Marie Le Clézio.
Ça leur permet d'enfumer, ça me rappelle, vous savez, l'époque Sarkozy ou l'époque Valls, où en fait les chiffres d'immigration ne faisaient que monter,
ils ne feront que monter.
Mais oui, bien sûr, mais
si la situation reste la même,
ils se faisaient passer pour dur, voilà, grâce à cela. Ça leur permettait de se faire passer pour dur. Or, ils savent, parce que Macron, etc., ils sont très férus de sondages, etc., que les Français ne veulent pas de ça. Vous savez qu'il y a un sondage qui est sorti, il y a même que 8% des électeurs de Jean-Luc...
Vous n'êtes pas au gouvernement.
Excusez-moi, madame, on débat, écoutez-moi. Il n'y a que 8% des électeurs de Mélenchon qui veulent plus d'immigration. Il y en a 51% des électeurs de Mélenchon qui en veulent moins. Alors chez les Français, c'est même 64% qui en veulent moins et que 4% qui en veulent plus. Donc, vous voyez, il y a même un consensus national maintenant sur le sujet. Des électeurs de tous les candidats, les électeurs de Hamon, c'est pareil, il n'y en a que 8% qui en veulent plus, 31% moins.
Tout le monde aurait dû voter pour Marine Le Pen.
Et il se trouve que voilà, il y a un consensus national. Alors, dans les projets de loi Macron, enfin, on verra bien, mais il y a aussi l'allongement de titres de séjour. Il y a aussi des mesures très laxistes. Et surtout, moi, et j'ai eu confirmation ce soir, je vois pas de vision. On dit il faut gérer l'asile comme ça doit être géré. Bon, très bien, mais c'est pas une politique cela. On va laisser l'OFPRA gérer. Bon, ça, c'est une mesure administrative. Mais quelle est la vision? Comment on fait? Parce que vous dites qu'il y a des enjeux. Mais oui, il y a l'enjeu climatique qui va venir. Alors, on va accueillir des centaines de millions de personnes?
Ah oui, d'accord, vous dites oui.
On va accueillir des centaines de millions de personnes dans un pays comme la France qui fait 550 000 km²,
redéveloppé les coopérations et déjà... développement.
Non, mais c'est bien, bien parce que vous assumez. On va accueillir des centaines de millions de personnes en France. Très bien.
Enfin, vous voyez bien
Ce que vous le disiez tout à l'heure.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez renoncé. Pourquoi vous avez renoncé à vous battre pour que ces pays-là sortent de la pauvreté?
Je n'ai renoncé à rien, M. Philippot.
Parce que vous allez leur prendre, vous allez les piller. On les pille, pas vous personnellement, mais on les pille leurs élites, on les pille de leurs étudiants, on les pille de leurs travailleurs, on les pille de leurs médecins. Mais vous pensez qu'ils auront une chance de s'en sortir comme ça? Moi, je pense qu'on a intérêt à travailler.
Ça, c'est un vrai sujet.
Beaucoup moins naïf ici, et là, circulaire où la loi Macron ira encore vers le laxisme, comme d'habitude, et à retrouver pour cela la maîtrise de notre politique.
Mais alors, Florian Philippot, l'action à mener en amont pour faire en sorte que les pays d'émigration le soient un peu moins, avec notamment l'aide publique au développement, ça vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, mais pour ceux qui sont ici, qui sont venus jusqu'ici, qui font une demande d'asile, qui peut-être peuvent être acceptés, qui peuvent être déboutés. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'asile est trop facilement, par exemple, accordé à ceux qui en font la demande?
Moi, je serais aux responsabilités, je dirais, aux services en charge de cette affaire, de revenir à des critères stricts d'asile. Vous savez, on n'est pas méchant, même si on accueille, au lieu de l'accueillir, de donner le statut à 43 000, même si on le donne à 10 000, on restera très gentil dans le monde. Vous savez qu'au Japon, ils ont accueilli 15 réfugiés l'an dernier, 15, dans un pays qui compte 120 millions d'habitants et qui est beaucoup plus riche que la France. Donc vous voyez, on sera même dans les meilleurs standards mondiaux, même si on restreint de 3 ou 4 ou 5 le nombre de réfugiés en France. Et puis ensuite, je dirais, attendez, par contre, ceux, on va appliquer la règle du jeu républicaine, ceux qui sont déboutés du droit d'asile, vous ne pouvez pas rester en France. Or, dans 9 cas sur 10, ils restent quand même en France, donc au mépris de la loi. Et ça n'est pas acceptable.
Chiffre de 2016 du ministère de l'Intérieur, 91 000 étrangers interpellés en situation irrégulière, 31 000 se sont vus délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire, moins de 25 000 sont partis. Est-ce que dans la politique de sélection, disons, qui est constitutive aussi d'une politique d'immigration, à partir du moment où on considère que tout le monde n'a pas vocation à s'installer en France, est-ce que ce sont des chiffres qui vous paraissent problématiques, Aurélien Taché? Est-ce que l'idée, c'est que ceux qui n'ont pas justement d'accord favorable pour l'asile doivent être systématiquement renvoyés dans leur pays? Comment ça doit se passer, ça?
Alors, d'abord, pour m'inscrire en faux, évidemment, avec ce qui vient d'être dit, évidemment qu'il y a une vision. Justement, affirmer une vision, c'est de dire qu'effectivement, ceux qui relèvent de l'asile doivent pouvoir venir le demander en France dans de bonnes conditions, pour que pour eux, une vraie politique d'intégration doit se mettre en place, et j'aimerais en dire un mot après, si vous en êtes d'accord, mais que par contre, effectivement, pour ceux qui sont déboutés de ce droit d'asile, on ne peut pas avoir l'ensemble des personnes qui se voient refuser la demande d'asile qui restent en France, sinon il n'y a plus de politique, enfin il n'y a plus de droit d'asile, quoi. Donc effectivement, là-dessus, on a à faire mieux pour un certain nombre de catégories de populations. Avoir des procédures plus courtes.
Faire mieux, ça pourrait aussi accorder davantage l'asile.
Alors, mais là-dessus, il faut quand même savoir de quoi on parle. Enfin, je veux dire, l'asile, c'est aujourd'hui géré, et c'est très bien comme ça, par une agence qui s'appelle l'OFPRA et qui est indépendante. Parce que le droit d'asile, à partir du moment où c'est un gouvernement qui commencerait à dire, voilà, les critères sont ceux-ci, on va prendre cela, et plutôt que tel autre, on revient dans finalement ce qui serait la politique migratoire. Ça, c'est tout à fait acceptable en matière de politique migratoire, sur le plan économique, sur un tas d'autres sujets, mais pas en matière d'asile. L'asile, c'est un droit fondamental, ça doit être mis en œuvre par une instance indépendante qui, en fonction de la Convention de Genève, effectivement, et des traités qui régissent ce droit sur le plan international, peut ou non les appliquer. Moi, ce que je souhaiterais, par contre, et là aussi, c'est évidemment en opposition avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plutôt qu'on avance vers un droit d'asile européen et qu'on ait une OFPRA et une agence européenne. Parce que ce qui fonctionne mal, et je vous rejoins dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la question des Dublinés...
Quand vous dites vous, c'est Eliane Assassi, hein,
oui,
comme on a des auditeurs,
on
les
a
pas forcément qui vous faites référence.
C'est pas aussi clair qu'à la télévision, évidemment, avec quand je fais avec mes mains. C'est d'avoir une réponse à cette problématique des Dublinés. Effectivement, aujourd'hui, on a un droit d'asile qui est conçu pour les gens qui nous écoutent de la manière suivante. Vous arrivez dans un pays en Europe, vous y êtes contrôlé, vous y laissez vos empreintes, et c'est cet État-là qui est responsable de votre demande d'asile. Donc ça conduit finalement les différents États membres de l'Union européenne à se renvoyer un peu la patate chaude, et on a une politique qui est incohérente. Avec une véritable politique d'asile sur le plan européen, on n'aurait plus ces situations-là. On aurait des points d'entrée aux frontières extérieures de l'Union européenne, et moi c'est plutôt ces frontières-là qui m'intéressent. Et on dirait aux gens, voilà, vous pouvez demander l'asile en Europe, par contre, effectivement, c'est l'Europe qui décidera, en fonction des capacités d'accueil de chaque pays, vers quel pays vous serez plutôt orienté. Alors évidemment, il faut que ça se fasse en bonne intelligence, si la personne vous dit qu'elle a de la famille dans tel ou tel pays. Mais en tout cas, ce serait réglé à ce niveau-là, et avec un droit de l'asile qui serait harmonisé. Parce qu'aujourd'hui, les Dublinés, c'est encore plus complexe que ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire que vous avez deux catégories. Vous avez les gens qui ont laissé simplement leurs empreintes quelque part, et effectivement, pour des pays de premier accueil comme la Grèce ou l'Italie, on voit bien les difficultés que ça peut susciter. Mais vous avez aussi des gens, et ça, c'est pas acceptable, qui ont été déboutés en Allemagne ou ailleurs, dont la demande d'asile a été examinée dans un État de l'Union européenne, dont elle a été rejetée, et qui viennent redemander l'asile dans un autre État. Donc, effectivement, il faut qu'on sorte de cette situation, et ça passe par un vrai droit d'asile sur le plan européen et des quota finalement de répartition des réfugiés avec une politique qui serait beaucoup plus intégrée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et si on pousse un peu la réflexion un peu plus loin, ce serait aussi utile en politique migratoire. Si on avait une politique migratoire qui était décidée dans le cadre d'une Europe politique beaucoup plus intégrée, on pourrait voir les choses un petit peu différemment de ce qui se passe aujourd'hui.
Eliane Assassi, ensuite Florian Philippot. Eliane Assassi, sur ce que vient de proposer Aurélien Taché.
Moi, je suis attentive aux propositions qui peuvent être faites. D'abord, je voudrais souligner l'excellent travail des personnels de l'OFPRA et de ses dirigeants, qui font un travail très compliqué, très difficile, puisqu'il y a un tas de textes qui régissent aussi hein, ce droit d'asile. Il y a un tas de situations, parce que après tout, nous n'avons en face de nous que des êtres humains, que voilà, des hommes, des femmes, voire des enfants, des mineurs isolés. Donc, ils font un travail remarquable. Et j'entends quand même ces derniers jours des voix, y compris du président de l'OFPRA, pour demander aussi plus de moyens pour assumer leur mission, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de traiter les dossiers comme ils souhaiteraient vraiment le faire avec ce traitement humain. Quant à un office européen de l'asile, ça pourrait être effectivement une bonne proposition. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est si c'est pour mettre en œuvre ou répartir les demandeurs d'asile selon leurs origines, selon une quantité dans tel ou tel pays, plutôt que... On en reviendrait donc à la politique de quotas dont on parlait tout à l'heure, à laquelle je suis complètement opposée. On a en face de nous...
Ça irait à l'encontre de l'inconditionnalité de l'accueil.
Exactement. Exactement. Ça irait à l'encontre de l'inconditionnalité de l'accueil. Rappelons-nous quand même que nous avons des êtres humains en face de nous et non pas des numéros.
Brièvement, Aurélien Tachir.
Non, simplement, il ne s'agit pas d'avoir un quota d'entrée hein, pour de venir demander l'asile, mais de répartition entre les différents États membres et pas du tout en fonction
selon
des origines,
critères,
en fonction de la démographie, de l'économie, de chaque pays, en fonction de la capacité d'accueil des uns et des autres.
On voit bien que ça ne marche pas déjà.
Moi, je suis très, très opposé à ce que l'Union européenne, ça ne vous surprendra pas, hein, puisse s'emparer encore plus de cette politique. D'abord, pour une raison de principe, c'est que je suis démocrate et que. L'Union européenne n'est pas démocratique, puisqu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de souveraineté européenne, donc il n'y a pas de possibilité de contrôle et de choix démocratique. Et là, on irait encore plus loin, enfin, on est déjà tellement loin, on contrôle déjà plus grand-chose, et vous voulez nous enlever encore un peu plus. Mais deuxièmement, vous avez raison, on parle d'humains, on parle de femmes, on parle d'hommes, on parle d'enfants. Or, l'Union européenne, c'est le règne de l'oligarchie financière. C'est ça, l'Union européenne. Bruxelles, c'est la ville au monde où il y a le plus de lobbies. Les lobbies ne sont pas là pour faire... de la bienfaisance hein, ou de l'humanisme. Ils sont là pour gagner de l'argent.
Et si donc vous dites quoi à ceux qui veulent venir en Europe ne venez pas, c'est l'enfer, restez chez vous.
Je dis que si Mme Merkel et si les autorités de la Commission européenne poussent depuis des années et des années dans des rapports à ce qu'on accueille 30 millions, 40 millions, 50 millions d'ici 2050 personnes en Europe, ça n'est pas pour rien. Et si Mme Merkel en a accueilli tant en 2015, ça n'est pas parce qu'elle est particulièrement gentille. C'est parce qu'il y a un grand patronat allemand qui lui a demandé d'accueillir des gens qui accepteraient des petits salaires, qui accepteraient de tristes conditions de travail et qui ne râleraient pas et qui probablement ne parleraient pas allemand, donc on les entendrait moins et qui ne se syndiqueraient pas, etc. etc. C'est cela, il faut appeler un chat un chat. Donc moi je préfère, voyez, là aussi, comme sur la question monétaire, comme sur la question budgétaire, comme sur la question culturelle, comme sur la question économique, etc., que ce soit les peuples qui puissent décider et qu'on puisse travailler, recréer des liens de confiance et d'amitié, et non pas simplement d'utilitarisme économique et financier. Or, souvent, l'immigration massive cache derrière cela un sombre projet, qui est un projet purement mercantile.
Est-ce que c'est un argument, en tout cas, auquel vous pourriez être sensible, Éliane Assassi et Aurélien Taché, c'est-à-dire de se dire l'immigration qui peut être aussi utilisée pour faire venir une sorte de sous-prolétariat, en tout cas pour aller vers un moins-disant social, parce qu'on peut embaucher des gens qui seront peut-être moins bien traités que d'autres. Non, ni l'un ni l'autre, mais ça vous paraît.
On est en France, le SMIC s'applique pour tout le monde de la même manière, les droits sociaux s'appliquent pour tout le monde de la même manière. Et quand j'entends ce qui vient d'être dit sur l'Allemagne, c'est totalement faux.
Sauf que vous connaissez le travail au noir, vous connaissez le droit du travail qui n'est pas respecté. Vous connaissez malheureusement aussi la directive, c'est un autre sujet, mais c'est quand même lié. La directive détachement des travailleurs, vous payez vos charges.
Est-ce que vous connaissez aussi les dizaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues parce qu'en France, tout simplement, on ne trouve pas de personnes pour accéder à ces emplois.
Les lois Macron, les lois travail.
Oui, moi je me suis battue, je ne suis pas sûre que vous l'avez fait.
J'étais même dans la manif. Ce que vous disiez sur l'Allemagne est totalement faux. Est-ce que vraiment, si les Allemands voulaient vraiment créer un lumpen prolétariat, comme vous le dites, en faisant venir une immigration ou des réfugiés, ils donneraient 900 heures de cours d'allemand aux personnes qui arrivent. Ils mettraient une politique d'intégration aussi ambitieuse que ce qu'ils font. Au contraire, là-dessus, on aurait pour le coup vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe en Allemagne et sur cette question effectivement
je me permets juste de vous couper, mais je pense que vous rêvez un tout petit peu, permettez-moi hein.
Écoutez, je reviens de Berlin il y a 15 jours et je vois ce qu'ils proposent.
Oui, mais ça c'est ce qu'on vous a montré, mais 900 heures etc. Ils sont même pas capables de dire à 200 000 personnes près une ville comme Lille combien sont venus dans leur propre pays.
Non, donc mais ne me dites pas qu'ils ont mis en place des comptes personnalisés d'Allemands.
Mais c'est pourtant le cas. C'est pour
ça que l'ensemble des sujets y accède.
Ça, c'est ce qu'on vous a dit là-bas.
Et on a. Écoutez, je ne savais pas que maintenant l'Allemagne n'était plus un régime démocratique qui nous montrait des choses.
Ils ont perdu la trace de centaines de milliers de personnes.
Non, mais que vous ayez, quand dans un pays comme l'Allemagne, quand vous avez reçu rien que sur l'année 2015 près d'1 million de personnes, que vous ayez un suivi de la politique.
De trouver que c'est formidable.
Mais écoutez,
c'est un drame humain souvent derrière.
Pourtant, moi, je vois à quel point aujourd'hui on a en France. Des vrais besoins pour relancer notre économie.
On va même chercher,
vous parliez des travailleurs, des chercheurs, on va chercher régulièrement des personnes en Europe de l'Est ou ailleurs parce qu'on n'arrive pas à pourvoir certains emplois. Aujourd'hui, on a certaines personnes qu'on protège en France et c'est tout à notre honneur. Pas tant que ça, c'est quelques dizaines de milliers de personnes par an, mais au moins ceux qu'on protège, c'est tout à notre honneur et si d'autres viennent demander l'asile, on continuera de le faire. Donnons-nous les moyens avec ces personnes, parce que pour beaucoup d'entre elles, elles ne demandent pas mieux que d'accéder à du français, à des emplois, à de la formation, et c'est tout le sens des propositions que je ferai dans le rapport que je remettrai, de tirer parti, en fait, et d'avoir vraiment de faire de cet accueil une chance. Vous avez toute une série de grands groupes qui, en France, vous disent aujourd'hui, nous, on est même prêts à, parce qu'il y a cette richesse, parce qu'il y a cette interculturalité, parce qu'il y a ces personnes qui maîtrisent aussi plusieurs langues, plusieurs cultures, qui ont une capacité, parce qu'on vit dans un monde ouvert, monsieur Philippot, que ça vous plaise ou non, ça nous intéresse, nous, d'avoir des personnes comme ça, et on est prêts à payer pour ça. Donc, investissons collectivement ensemble, que ce soit, oui, les milieux économiques, oui, les pouvoirs publics, sur les personnes qui arrivent pour les former, pour leur donner les moyens de vraiment apporter tout ce qu'elles peuvent apporter à notre pays, et ce sera une affaire qui sera gagnante à la fois pour la société d'accueil et pour les personnes qui ont fui leur pays.
Juste un tout petit mot. J'ai l'impression que vous entretenez un peu sciemment, comme tout à l'heure, la confusion entre, moi je suis tout à fait heureux qu'on accueille des étudiants étrangers en France. Hein. Je ne parle pas du tout
de réfugiés,
de cette
hein.
problématique-là. Bon, d'abord, non, parce que j'aimerais qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Deuxièmement, pour les personnes qui sont là ou qui ont acquis même la nationalité française, etc., je suis très favorable à ce que l'assimilation se fasse, et notamment par des cours de français absolument intensifs, massifs, notamment y compris pour les pères et les mères de famille dans certaines banlieues, pour qu'ils puissent mieux suivre leurs enfants à l'école et qu'on ne voit pas malheureusement des enfants dont les parents ne sont pas là parce qu'ils n'osent pas venir, parce qu'ils ne maîtrisent pas le français lors des conseils de classe ou des rendez-vous avec les professeurs au collège. Or, c'est essentiel qu'ils soient suivis. Maintenant, on peut le faire.
Vous ne pouvez pas vous empêcher.
Oui, de c'est prôner terrible. L'assimilation et de parler généreusement de cours de français. Vous avez raison, je ne peux pas vous empêcher. Je pense effectivement que je peux pas m'empêcher effectivement de penser que on est plus heureux en France quand on maîtrise par exemple la langue française, mais c'est comme cela, je le crois, j'en suis absolument persuadé et je souhaiterais qu'on puisse le mettre en place. Mais maintenant, l'assimilation se fait uniquement si on est un tout petit peu raisonnable sur les chiffres et qu'on arrête de croire qu'on peut accueillir, comme vous l'avez dit madame tout à l'heure, des centaines de millions de personnes, des centaines
soyez
de millions.
Soyez pas ridicule, je n'ai jamais dit des centaines de millions en France.
Oui, vous avez
ne soyez pas ridicule.
Eliane Assassi, ce sera la conclusion parce qu'on est presque presque au terme de la discussion.
Mais moi, j'assume complètement.
Est-ce que pour vous, Eliane Assassi, la politique d'immigration, elle doit se penser avec un objectif? Alors, Florian Philippot utilise le terme d'assimilation. On entend plutôt d'habitude parler d'intégration. En tout cas, est-ce que ça doit être une dimension qui doit être une dimension essentielle du débat?
D'intégration, vous voulez dire
une politique.
Oui, bien sûr. Moi, je rejette complètement le concept d'assimilation.
Moi aussi.
On s'est battu contre ce concept, notamment
c'est un concept
sous le gouvernement.
Éminemment républicain.
Oui, mais ça, c'est votre lecture à vous, monsieur Philippot.
Non,
mais moi, j'ai bataillé en séance au Sénat contre ce concept d'assimilation. Mais qu'on parle d'intégration et qu'on crée les conditions, effectivement, d'une bonne intégration. Écoutez, moi, je suis moitié algérienne. J'ai pu grandir en France. Où je suis née, mais parce qu'aussi il y avait tout. Mes parents ont été intégrés à la société française par la langue, etc. Enfin, c'est pas nouveau ce que vous me dites, mais c'est pas nouveau.
C'est pas toujours le cas, et vous le savez.
Moi,
bien.
Je pense qu'effectivement, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Mmh. Mais pour que ces efforts soient faits, il faut. Mais là, on n'a pas le temps d'évoquer le sujet, mais il faut. Parce qu'on n'a pas parlé des moyens donnés aux associations qui accompagnent justement ces mesures d'intégration. On n'a pas parlé des moyens pour l'école. On n'a pas. Bon, voilà, il y a un tas de sujets qu'on n'a pas évoqué, et sans les moyens dédiés à ces associations, je pense à elles notamment, nous n'y arriverons pas.
La politique d'intégration, c'est un sujet qui mériterait au moins une émission à part entière. Ben, peut-être qu'on aura l'occasion de l'y attacher, si vous le voulez bien. Ben voilà, si vous nous dites d'ici 3 semaines, voyez, on aura presque oublié que vous êtes venu, donc on pourra vous réinviter de manière. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de pas avoir tout le temps les
invités. Si vous parlez d'intégration, ça va pendant une heure.
Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Aurélien Taché, Florian Philippot et Eliane Assassi. Émission que vous pouvez retrouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Antoine Dulster. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny.